Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus, merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais remercier particulièrement la direction générale de l'école et la présidence, donc en la personne de M. Samaru qui a introduit cette conférence. Les services de l'école également qui nous ont beaucoup aidés, services notamment sécurité, services logistiques, et Bernard Sébir, le régisseur de l'amphithéâtre qui travaille ce soir pour nous et pour que la conférence se passe bien. Je remercie également nos partenaires, en particulier Florence Mardi-Rossian pour Carrefour de la République, qui est à l'initiative de cette conférence et qui nous y est associée. Ce n'est pas notre premier partenariat, mais ça se passe toujours très bien. Monsieur Janté, aussi Eric Janté, qui est dans la salle et qui est président de la Chaire lyonnaise des droits de l'homme. Je m'associe de la même manière que Carrefour de la République, enfin je m'associe à leurs regrets et à leurs déceptions concernant les collectivités locales, notamment la ville de Lyon et la région, dont l'absence de soutien est ce soir criante. Chacun prendra ses responsabilités. Donc, pour en venir au thème de ce soir, nous avons intitulé la conférence « Les révolutions arabes, nouveau modèle d'émancipation des sociétés civiles ?» point d'interrogation. Alors, effectivement, si on a choisi d'axer la conférence sur ce thème, c'est qu'on pense, on verra comment si cela apparaît dans le débat, mais on pense que les sociétés civiles sont devenues l'espace politique de la postmodernité, c'est-à-dire de notre époque, de part et d'autre de la Méditerranée. En effet, que nous disent ces révolutions arabes? Alors, elles nous disent plusieurs choses. D'abord, on pourrait dire, de manière schématique certes, mais globalement, que ce sont des révolutions sans icônes. Elles ne se font pas, en tout cas, au nom de chefs charismatiques, pas au nom d'un parti, pas au nom d'une religion identifiée. Au contraire, ces mouvements, dont chacun a sa spécificité, ont débordé les récits politiques et les discours de légitimation traditionnels. Ils n'ont pas non plus été guidés par une avant-garde éclairée, révolutionnaire, qui aurait été aux avant-postes de la lutte et de la contestation, mais on a plutôt assisté à une formidable convergence, à une conjonction, qui s'est incarnée physiquement sur la place Tahrir, par exemple, en Égypte. De même, les révolutions auxquelles on assiste, les mouvements de contestation, ne sont pas partis d'un centre qui aurait diffusé ses ondes aux périphéries, mais elles sont venues des marges, des périphéries, justement, et elles ont été lancées par, non pas par des héros, mais par des anti-héros du quotidien. Et ceux qui n'avaient pas la parole, ceux qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, ceux qu'on ne pensait jamais entendre, ou ceux dont on déplorait l'apolitisme ou l'apathie citoyenne, ont fait irruption dans l'espace public, qu'il s'agisse des chômeurs, des étudiants ou des militants de la société civile. Donc ce que nous disent ces révolutions, c'est la capacité d'un peuple et de la société civile dans sa diversité, c'est-à-dire la société hors des institutions traditionnelles, à prendre son destin en main et à créer l'événement politique, au sens fort du mot. Et on a dit et redit l'importance des réseaux sociaux, l'importance d'Internet, l'importance de la cyberdissidence et de la diffusion virale de cette dissidence. C'est ce qui est un fait relativement nouveau et un fait extrêmement contemporain. Mais est-ce qu'on doit pour autant en conclure et se réjouir donc que les pays arabes rejoignent enfin la modernité, sous-entendu notre modernité, en prenant le chemin de la liberté et de la démocratie? Ce jugement serait un petit peu présomptueux et un petit peu arrogant de notre part, nous qui sommes confrontés en France et en Europe à la fin d'un cycle politique qui ne va pas sans convulsions et soubresauts. Donc, ces révolutions interrogent nos propres démocraties qui arrivent un petit peu à bout de souffle dans une certaine mesure. Elles interrogent aussi nos systèmes de représentation qui sont fragilisés, contestés, et qui n'attirent pas les foules dans les urnes. Et pour illustrer ce propos, je voudrais citer une journaliste tunisienne qui écrivait donc, en février 2011 « Il s'avère que le modèle révolutionnaire tunisien pourrait répondre d'une manière insolite aux traits caractéristiques de la condition postmoderne et de post-histoire vécue par les Occidentaux comme suite logique, comme déterminisme historique propre à leur civilisation. Cependant, l'imprévisible, l'inattendu, le saugrenu qui a tant surpris le monde entier et qui a ébahi l'Occident, c'est ce coup de théâtre, cette volte-face de l'histoire, cette ironie de l'insensé. Et cette ironie de l'insensé vient justement de l'autre côté de la Méditerranée. Et de fait, nous avons une interrogation et une réflexion à mener en commun avec le monde arabe et avec les acteurs de ces révolutions, une réflexion qui doit occuper Tunis comme Paris, c'est-à-dire les deux rives de la Méditerranée, et on pourrait la résumer simplement sous cette interrogation, comment faire, ou plutôt refaire, de la politique au XXIe siècle. Et ce que nous pensons, alors ensuite, je livre cette réflexion à nos invités, mais ce que nous pensons, c'est que la société civile est justement le lieu politique, le nouveau lieu politique de cette postmodernité et le lieu politique de notre époque. Je cite encore, là pour le coup, un philosophe, Lipovetsky, donc théoricien de la postmodernité, qui définit la politique postmoderne, donc notre configuration sociale, de cette manière. Il dit, la postmodernité en politique, c'est moins de relations verticales et paternalistes entre l'État et la société, moins de régime unique, plus d'initiatives, de diversité et de responsabilité dans la société et chez les individus. Du coup, la crise de l'État-providence est un moyen de disséminer et de multiplier les responsabilités sociales, de renforcer le rôle des associations, des coopératives, des collectivités locales, de réduire la hauteur hiérarchique qui sépare l'État de la société. Et Lipovetsky nous incite à nous mettre en phase avec une société mobile et ouverte, refusant la distance politique. Et effectivement, la postmodernité, notre contemporain, c'est cette ère de la proximité et de la diversité. Or, le lieu de la proximité et de la diversité, quel est-il ? Sinon, celui de la société civile. La société civile, traversée de toute la conflictualité, des débats, des combats, des confrontations qui nourrissent le débat démocratique et qui lui sont consubstantiels. Donc cela implique, j'ai bientôt fini, puisque moi je ne suis pas invité théoriquement, cela implique de renouveler notre imaginaire politique occidental, fondé sur la démocratie représentative, le système des partis, les relations verticales et les grandes structures étatiques. Et au contraire, donc d'abandonner ses vieux habits, en quelque sorte, et de miser sur la multiplication des réseaux, des relations horizontales et locales, décentralisées, voire éclatées. Donc voilà, pour un peu cadrer et expliciter la démarche qui a présidé à l'organisation de cette conférence, Florence Mardi-Rossian, donc, qui anime le débat, et moi-même, publierons la semaine prochaine dans Marianne une tribune sur ce thème, à ce propos, une tribune qui appelle à la constitution d'un forum euro-méditerranéen des sociétés civiles, forum dont la réunion qui a eu lieu cet après-midi, la table ronde qui a eu lieu cet après-midi, est un prélude et nous l'espérons, un véritable lancement. Donc je vais laisser maintenant la parole à Joseph Yacoub, qui est professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lyon, qui intervient au nom de la chaire lyonnaise des droits de l'homme et qui va nous parler des minorités, la question des minorités dans ces révolutions arabes. Et ensuite, s'en suivra le débat animé donc par Florence Mardi-Rossian de Carrefour de la République. Merci.